Chapitre 20. À partir de ce moment, la dette publique n'eut plus de secret. Caton fit rentrer tout l'argent qui était dû à la République, mais aussi il paya tout ce que la République devait. Ce fut un grand bruit et un grand étonnement dans toute cette population romaine, habituée au tripotage des hommes d'argent, quand elle vit que les agioteurs, qui avaient bien cru ne jamais être obligés de payer au trésor ce qu'ils lui devaient, étaient obligés de rendre gorge, tandis que des citoyens qui avaient des créances du trésor et qui, croyant ses valeurs perdues, n'avaient pas pu les vendre à moitié prix, étaient intégralement payés de ces créances. On mit, et c'était justice, tous ces bons changements sur le compte de Caton, et le peuple, qui voyait en lui le seul honnête homme de Rome, commença de le prendre en grand respect. Ce ne fut pas tout. Restaient les égorgeurs de Sylla. Au bout de 15 à 20 ans d'impunité, ces égorgeurs se croyaient hors d'atteinte et jouissaient avec tranquillité d'une fortune sanglante et facile, puisque bon nombre de têtes avaient été payées jusqu'à 12 000 drachmes, c'est-à-dire jusqu'à 10 000 francs de notre monnaie. Tout le monde les montrait du doigt, mais personne n'osait les toucher. Caton les cita les uns après les autres devant les tribunaux comme détenteurs des deniers publics, et il fallut que ces misérables rendissent tout à la fois l'or et le sang. Vint la conspiration de Catilina. Nous avons dit le rôle que chacun y avait joué. Nous avons dit comment, après que Silanus eut opiné pour le dernier supplice, César fit un discours tellement habile sur la nécessité de l'indulgence que Silanus, se démentant lui-même, déclara que, par dernier supplice, il avait tout simplement entendu l'exil, puisqu'un citoyen romain ne pouvait être puni de mort. Cette faiblesse fit bondir Caton. Il se leva et se mit à réfuter César. Son discours est dans Salluste, ayant été conservé par les scénographes de Cicéron. Disons en passant que ce fut Cicéron qui inventa la scénographie et son secrétaire Tullius Tito qui en régularisa tout le système. À la suite de ce discours de Caton, Cicéron eut le courage de faire étrangler les complices de Catilina, et César, qui craignait que son indulgence ne le fît accuser de complicité avec le chef du complot, se jeta dans la rue et se mit sous la sauvegarde du peuple. Ce fut en sortant qu'il faillit être assassiné par les chevaliers amis de Cicéron. Nous avons dit comment Caton balança la popularité de César en faisant faire une distribution de blé dont le prix égalait 7 000 000 de notre monnaie. Toutes les précautions de César n'avaient point empêché qu'il ne fût accusé. 3 voix s'élevèrent contre lui, celle du questeur Novius Niger, celle du tribun Yétius et celle du sénateur Curius. Curius était celui qui avait le premier donné avis de la conspiration et parmi les conjurés, il nommait César. Vétius allait plus loin. Il soutenait que César était lié à la conjuration, non seulement par parole, mais encore par écrit. César lâcha le peuple sur ses accusateurs. Novius fut mis en prison pour s'être porté juge d'un magistrat plus élevé que lui. Vétius eut sa maison envahie et pillée. On jeta ses meubles par la fenêtre et peu s'en fallut qu'on ne le mît en pièces. Rome, au milieu de tous ces conflits, était fort troublée. Metellus, qui venait d'être nommé tribun, proposa de rappeler Pompée à Rome pour le mettre à la tête des affaires. C'était demander un nouveau dictateur. César, qui connaissait l'incapacité de Pompée comme homme politique, se réunit à Metellus. Peut-être n'était-il point fâché de créer un précédent. Caton seul pouvait résister à une pareille alliance. Il alla trouver Metellus, mais au lieu d'aborder la question avec sa brutalité ordinaire, il l'attaqua doucement, priant plutôt qu'il n'exigeait, entremêlant ses prières de louanges sur la maison de Metellus et lui rappelant qu'elle avait toujours compté parmi les soutiens de l'aristocratie. Metellus crut que Caton avait peur et s'entêta. Caton se contint encore quelques instants. Mais la patience n'était pas sa vertu. Il éclata tout à coup et se répandit en menaces contre Metellus. Metellus vit bien qu'il fallait avoir recours à la force. Il fit venir ses esclaves à Rome et dit à César d'y donner rendez-vous à ses gladiateurs. César, qui avait fait combattre 640 gladiateurs lors de son édilité, en avait conservé un dépôt à Capoue. Tout grand seigneur romain avait ses gladiateurs à cette époque, comme au Moyen-Âge, tout comte, duc ou prince avait ses bravi. Nous avons vu les gladiateurs faire à eux seuls cette révolution qui met jusqu'à 20 000 hommes sous les ordres de Spartacus. Seulement, le Sénat a rendu une loi par laquelle nul ne pourra garder, dans Rome, plus de 120 gladiateurs. Cette résistance à Caton se faisait publiquement. La veille du jour où la loi avait été proposée, quoiqu'il sût parfaitement le péril qu'il avait à courir le lendemain, Caton soupa comme à son ordinaire et, ayant soupé, s'endormit profondément. Minucius Termus, l'un de ses collègues au tribunal, vint le réveiller. Tous deux se rendirent au forum, accompagnés d'une douzaine de personnes seulement. Sur la route, ils recueillirent 5 ou 6 amis qui venaient au-devant d'eux pour les prévenir de ce qui se passait et les avertir de se mettre sur leur garde. En arrivant sur la place, le danger devint visible. Le forum était rempli d'esclaves armés de bâtons et de gladiateurs avec leurs sabres de combat. Au haut des degrés du temple de Castor et Pollux étaient assis Métellus et César. Des esclaves et des gladiateurs couvraient les degrés. Alors, s'adressant à César et à Métellus, « Audacieux et lâches à la fois !» leur cria Caton, qui, contre un homme nu et sans armes, avait réuni tant d'hommes armés et cuirassés. Puis, haussant les épaules, en signe de mépris du danger par lequel on avait cru l'intimider, il s'avança et, commandant qu'on lui fît place, à lui et à ceux qui le suivaient, il commença de monter les degrés. On lui fit place, en effet, mais à lui seul. Il n'en monta pas moins. Il tirait Termus par la main. Mais, avant d'arriver sous le vestibule, il fut obligé de l'abandonner. Enfin, il parvint en face de Métellus et de César. Il s'assit entre les deux. C'était le moment ou jamais d'utiliser leurs sbires. Peut-être allait-il le faire quand tous ceux sur lesquels le courage commande l'admiration commencèrent de crier à Caton « Tiens ferme, Caton, tiens ferme! Nous sommes là, nous te soutiendrons !» César et Métellus firent signe au greffier de lire la loi. Le greffier se leva et commanda le silence. Mais, au moment où il allait commencer sa lecture, Caton lui arracha la loi des mains. Métellus, à son tour, l'arrache des mains de Caton. Caton l'arrache de nouveau des mains de Métellus et la déchire. Métellus savait la loi par cœur. Il s'apprête à la dire au lieu de la lire. Mais Termus, qui avait rejoint Caton et qui, sans être vu, avait passé derrière Métellus, lui met la main sur la bouche et l'empêche de parler. Alors César et Métellus appellent à eux les gladiateurs et les esclaves. Les esclaves lèvent leurs bâtons, les gladiateurs tirent leurs épées. Les citoyens jettent de grands cris et se dispersent. César et Métellus s'éloignent de Caton, qui, isolé, devient un but. On lui jette des pierres à la fois du bas des degrés et du toit du temple. Murena s'élance, le couvre de sa toge, le prend à bras le corps et l'entraîne dans le temple, malgré ses efforts pour rester sous le vestibule. Alors Métellus ne doute plus du succès. Il fait signe aux gladiateurs de remettre leurs épées au fourreau, aux esclaves d'abaisser leurs bâtons. Puis, profitant de ce que ses partisans restent seuls sur le forum, il essaie de faire passer la loi. Mais au premier mot, il est interrompu par les cris « À bas, Métellus ! À bas, le tribun !» Ce sont les amis de Caton qui reviennent à la charge. C'est Caton lui-même qui sort du temple. C'est enfin le Sénat qui, honteux de son silence, s'est assemblé et a décidé de venir en aide à Caton. Alors une réaction s'opère. César a prudemment disparu. Métellus s'enfuit, quitte Rome, part pour l'Asie et va rendre compte à Pompée de ce qui s'est passé au forum. Pompée pense à ce jeune homme rigide qu'il est venu visiter à Éphèse et murmure « Je ne me suis pas trompé et il est bien tel que je l'avais jugé. » Le Sénat, tout joyeux de cette victoire que Caton avait remportée pour lui, voulait noter Métellus d'infamie. Caton s'y opposa. Il obtint qu'on ne fît pas cette injure à un citoyen si distingué. C'est alors que César, voyant qu'il n'y avait rien à faire pour lui à Rome, s'était fait nommer préteur et était parti pour l'Espagne. Nous l'en voyons revenir pour solliciter le consulat.